Merci d'être avec nous et de passer ce samedi après-midi. Dans un instant, nous repartons au Salon du Livre du Grand Narbonne. C'est avec Benjamin pour parler bande dessinée.
Oui, tout à fait, Jean-Michel. Je me suis arrêté sur le stand numéro 8, le stand de la tête dans les étoiles pour retrouver Carbone, Véronique Barrault et Charline Fonce. Mais là, je suis avec Véronique Barrault. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler de la bande dessinée La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, La Pommade de Fée. Donc, une exposition réalisée en partenariat avec les éditions Dupuis à l'occasion des 10 ans du Salon du Livre du Grand Narbonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de cette bande dessinée?
Oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'Elina. Elina, c'est une petite fille qui a environ une dizaine d'années, qui va rendre visite à sa grand-mère qui s'est cassée le col du fémur, donc rien de bien grave, mais elle est coincée dans un centre de rééducation. Et sa grand-mère va recevoir un appel au secours du petit peuple, c'est-à-dire les fées, les lutins, les licornes, etc., tous les êtres fantastiques qu'on ne voit pas. Et elle va demander à sa petite fille Elina de reprendre son rôle de sentinelle du petit peuple pour venir au secours de ses amis.
Alors, la sentinelle du petit peuple allie créatures fantastiques traditionnelles et un monde actuel. Comment arrive-t-on à trouver l'équilibre entre ces deux univers plutôt opposés?
Bien, il faut savoir que autrefois, les créatures fantastiques faisaient partie du quotidien intégrant. Il y avait beaucoup de gens, notamment les paysans, qui croyaient à ces créatures, qui leur faisaient des offrandes quotidiennes ou qui essayaient de s'en protéger. Aujourd'hui encore, moi je connais des gens qui croient vraiment, et des adultes également d'ailleurs. Et donc, on peut très bien imaginer que autour de nous, bien, comme dans la série, hein, comme dans notre série, il existe des dragons, des fées, des lutins, qui cohabitent avec nous sans que nous les voyons, que nous nous en doutions éventuellement, mais que peut-être un jour, grâce à la pommade de fées ou à des preuves scientifiques, qui sait, hein, on ne connaissait pas l'existence des trous noirs, par exemple, il n'y a pas encore si longtemps, eh bien, on pourra se rendre compte qu'ils habitent peut-être à côté de nous, sous nos yeux.
Donc, à voir.
Ben voilà, tout à fait. Pour ça, il faut faire la pommade de fées, dont la recette est dans notre BD.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer la BD. Donc vous êtes trois à travailler sur ce projet. Comment vous êtes répartis les rôles, hein?
Alors, c'est moi qui commence, parce qu'en fait, je suis spécialisée dans tout ce qui est croyances du monde entier, de l'Antiquité à nos jours, et notamment dans le domaine de la féerie. Donc je me sers de ces croyances-là pour commencer à écrire l'histoire. J'écris un premier jet que j'envoie à Carbone, donc c'est ma co-scénariste, et on fait des ping-pong. C'est-à-dire qu'elle va me dire, bah oui, ça c'est bien, ça je verrai mieux que ça comme ça, ou on pourrait aussi rajouter cette idée. Et une fois qu'on est d'accord toutes les deux, on envoie le tout à notre éditrice, et à partir de là, si elle est OK, c'est Carbone qui fait le découpage des planches, donc elle va découper l'histoire en planches, et on envoie ensuite à Charline qui fait les dessins et les couleurs.
Alors, on peut retrouver l'exposition à la nouvelle librairie BD et compagnie à Narbonne. Qu'est-ce que vous proposez sur ce lieu?
Alors, il y a 10 panneaux, 10 bâches sur l'univers de notre BD. Donc, on y apprend notamment comment on construit une BD. Vous allez découvrir aussi des bâches sur des créatures fantastiques, licornes, dragons notamment, que l'on retrouve dans la série. Il y a aussi des originaux, donc des dessins réalisés sur papier par Charline. Ils sont là à l'occasion de l'exposition aussi. Et puis, vous avez une vitrine avec des curiosités féeriques. Donc, vous avez notamment une petite armoire avec les ingrédients nécessaires pour réaliser la pommade de fée. Vous avez un œuf de dragon, une corde de licorne, le guide féerique qui est dans la BD et d'autres surprises que je vous invite à découvrir.
Alors, n'hésitez pas à venir donc sur le stand 8, donc la tête dans les étoiles. Séance de dédicaces, dessin de Charline. Il y a beaucoup de monde cet après-midi sur votre stand.
Oui, tout à fait. En sachant qu'on est là donc toutes les trois aujourd'hui, demain matin, et que Charline, par contre, elle part demain vers 15h quelque chose. Donc, si vous voulez avoir un dessin de Charline de dédicace, il faut venir avant demain. Demain matin, idéalement, ce serait bien, quoi.
Donc le message est passé, on rappelle également que l'exposition elle est à voir jusqu'au 15 juin, donc à la nouvelle librairie BD et compagnie à Narbonne, 45 rue droite, elle est géniale en tout cas.
Merci, merci beaucoup.
Voilà, on était avec Véronique Barrault pour nous parler de la bande dessinée La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, La Pommade de Fée. On va retrouver Marline dans les prochaines minutes pour continuer de vous dévoiler les différents auteurs de ce Salon du Livre du Grand Narbonne.
Merci beaucoup Benjamin, et en attendant 16h, on écoute Grégoire. 16h05 sur Grand Sud FM, passez un bon après-midi, toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne. On va retrouver tout de suite Marilyn avec un nouvel invité.
Et oui, sur le stand numéro 17, hein, j'aime bien ce stand, décidément, on était avec Marine Imier tout à l'heure, je suis avec François Kuhn, bonjour.
Bonjour.
Alors François Kuhn, on vous appelle le livreur de mots, vous êtes bruxellois, vous êtes influenceur littéraire, vous avez 65 000 abonnés, même un peu plus, sur votre compte Instagram qui s'appelle Livraison de mots, et vous avez publié votre tout premier livre, Et si on livrait des mots. Ça fait 6 ans que vous êtes influenceur, vous me disiez tout à l'heure, donc parlez-nous de vous. Et expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à sortir ce premier livre, parce que c'est une commande hein, dans ce que vous m'avez expliqué.
C'est ça. En fait, moi, j'ai un compte Instagram, comme vous l'avez très bien dit, où je parle de culture et plus spécifiquement de livres. Donc, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que j'ai le bonheur de vivre dans les livres. Je les lis et puis je les recommande ou pas sur ce compte Instagram. Et ce livre, Et si on se livrait des mots, c'est un éditeur qui est venu vers moi et qui m'a dit est-ce qu'on n'adapterait pas tout ce que tu fais sur Instagram en format bouquin, donc c'est-à-dire que je recommande plein de livres dans ce même livre, c'est un peu un objet littéraire non identifié, c'est comme ça que je l'appelle, et on y retrouve tout ce que j'aime dans la vie, mais je suis quelqu'un qui adore la vie, je pense qu'on n'entend pas souvent quelqu'un qui nous dit ça, et ça peut paraître un peu bisounours, mais j'adore la vie, j'adore les gens, j'adore les rencontres, il y a tout ça sur mon compte Instagram et il y a tout ça dans le livre.
On le ressent quand on vous parle et je pense qu'à travers votre voix, les auditeurs de Grand Sud FM l'ont bien compris, donc vous aimez lire. Vous aimez écrire, vous aimez partager, vous aimez venir à la rencontre. Et là, c'est parfait sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Je rappelle qu'on est sur les barques à Narbonne. Hein. Venez nous voir. Et vous avez sorti, comme vous dites, cet objet littéraire non identifié. Et si on livrait des mots, c'est sorti en 2023. Donc, à quel public est-ce que vous vous adressez? Parce que vous me dites, finalement, c'est tout ce qu'on retrouve sur Instagram qui est retranscrit dans ce livre. On s'adresse à qui?
J'ai envie de dire à tout le monde, mais c'est vrai que c'est un produit et c'est un livre que ma communauté achète d'abord. Mais là où je suis ravi, c'est que depuis ce matin et notamment quand je suis en librairie ou à d'autres salons, y a plein de gens qui me croisent par hasard, qui ne me connaissent absolument pas. Ils me disent cette couverture jaune avec ce sourire, ça donne super envie. Alors moi, je suis ravi. Et puis, c'est surtout pour les gens qui aiment lire, mais pas que.
Voilà, c'est un livre. Comment est-ce que ça se présente?
Alors, c'est un livre, vous allez l'ouvrir, il y a plein de questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, il y a des espaces pour écrire. Je vous demande, par exemple, quel est votre livre préféré? Puis moi, je vous dis le mien, je vous dis pourquoi. C'est un livre où vous avez des choses à cocher entre est-ce que vous préférez les livres grand format ou les petits formats. Il y a aussi des questions du style quel a été ton plus beau concert et moi, je te parle des miens. Enfin, il y a tout un rapport comme ça et j'invite vraiment les gens qui viennent me rencontrer en dédicace et en vrai à venir me dire leur réponse sur Instagram, parce que c'est très bien qu'ils complètent le livre, mais l'idée, c'est qu'on échange après. Et voilà.
Vous, qu'est-ce que vous aimez lire en général, François Kuhn?
Ah, je lis énormément de choses, mais ce que je préfère, c'est la littérature dite contemporaine, qui est ancrée dans notre monde, pas trop de science-fiction. Je vais plutôt vous dire ce que j'aime pas, en fait, ce sera plus facile, mais j'aime pas les sagas, j'aime pas les romans historiques, j'aime pas trop le manga. Je lis énormément de bandes dessinées, j'adore ça, que j'ai découvert aussi grâce au compte Instagram, parce qu'avant, j'en lisais pas du tout. Et j'aime bien les autobiographies, j'aime bien les témoignages, j'aime bien les récits qui provoquent une émotion.
Voilà, l'émotion, ça ressort beaucoup hein, chez vous François Kuhn. Alors, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? Moi j'ai pu voir que vous aviez sorti une collection de vêtements il y a quelques années, vous êtes lancé dans l'écriture, et la suite?
Ah là là, est-ce que je dis une petite exclue? Allez, on y est, on est là pour ça. Hein. Je suis sur un roman. Je suis sur un roman et d'ailleurs je le dis parce que tout le monde me pose la question depuis ce matin, est-ce qu'il y a autre chose qui va arriver? Donc il y a un roman qui arrive, je suis sur un projet aussi de bande dessinée, voilà, et puis l'idée c'est que oui, il y a plein d'autres projets, j'ai bientôt peut-être une émission télé en Belgique, donc faudra suivre ça depuis Narbonne et depuis la France, mais il y a des choses qui se dessinent en tout cas.
Bon, plein de belles choses en tout cas, plein de bons projets. J'allais vous demander si vous alliez vous lancer dans un autre livre. La réponse, on l'a. Moi, je pense qu'il faut venir vous rencontrer et les auditeurs partageront cette idée sur le stand numéro 17. Mais surtout, demain matin, de 10h à 11h30, vous proposez ce qu'on appelle un petit déjeuner, un réveil littéraire et optimiste comme vous l'êtes. Hein.
Mais je crois que l'organisation du salon a donné ce titre au déjeuner par rapport à ça, parce que tout le monde dit que je suis super solaire, moi je m'en rends pas bien compte, mais c'est vrai qu'avec la météo belge, je pense que j'ai pas trop le choix. Mais oui, demain matin, en fait, je propose depuis plusieurs années maintenant de venir à ma rencontre, qu'on se mette tous sur une table et qu'on déjeune bien. Il paraît qu'à Narbonne on mange bien et c'est vrai que depuis que je suis là, je suis pas déçu. Et l'idée c'est que demain matin, on va venir ils vont tous venir avec des livres coup de cœur et on va se les recommander entre nous et en fait, c'est pour casser cette barrière du digital et à eux de m'influencer aussi finalement.
Bah voilà, voilà. Il y a la partie digitale avec vous, il y a la partie littéraire et si vous pouvez pas aller au petit-déjeuner demain, venez quand même aujourd'hui rencontrer donc François Kuhn sur le stand numéro 17. Vous serez là demain après-midi aussi ou pas?
Oui, je reste toute la journée, je pars lundi matin exprès pour vous rencontrer.
Donc il faut vraiment venir, il faut pas manquer ce moment. Ça s'appelle « Et si on se livrait des mots ». Et si là, vous êtes connecté, vous n'êtes pas avec un livre, vous allez sur Instagram, « Livraison de mots ». Comme ça, vous aurez une idée du personnage. Mais je pense que même si vous le visualisez pas, à travers sa voix, vous avez bien perçu qu'on a affaire à quelqu'un de très optimiste. Très solaire, moi j'avoue, solaire, c'est vraiment ça. Donc merci vraiment François Kuhn d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite un bon séjour à Narbonne et un excellent salon du livre. Et à bientôt pour la suite, peut-être dans un an ou deux ans, avec une BD ou un autre livre.
Je signe tout de suite et merci à vous.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, François Kuhn, stand numéro 17. Je vous rappelle que le Salon du Livre du Grand Narbonne, c'est aujourd'hui, c'est en partenariat avec Grand Sud FM. On vous attend sur les barques. Voilà, on est très bien installés. Et vous allez rencontrer une centaine d'auteurs, dont François Kuhn. Donc, n'hésitez pas. On va se diriger vers la BD, justement. Je vais aller retrouver Benjamin. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Marilyn. Et bon après-midi à vous toutes et à vous tous. On retourne au Salon du Livre du Grand Narbonne juste après cette courte pause. Grand Sud FM. 16h19 sur Grand Sud FM, bon samedi après-midi, toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne et avec l'invité de Benjamin, on reparle bande dessinée.
Oui, tout à fait, Jean-Michel, je me trouve avec Léo Schilling qui est sur le stand 13, le stand de BD et compagnie. On va parler bande dessinée avec le premier album du jeune Narbonnais intitulé Anna et Tarou. Bonjour Léo Schilling.
Bah, bonjour, merci de l'interview.
Avec plaisir. Alors ma première question, c'est comment êtes-vous tombé dans l'univers de la bande dessinée?
Ah ben déjà c'est quelque chose que je suis tombé dedans très petit en fait parce que ma mère était libraire et voilà mon père collectionnait beaucoup de livres et finalement c'était presque logique qu'on ait des bandes dessinées et donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et qui m'a tout de suite envie d'en faire et bah j'ai fait toutes mes études et ma scolarité en pensant faire ça quoi donc voilà c'est comme ça que je suis tombé simplement dans la bande dessinée.
Donc c'est un rêve qui est devenu réalité.
Oui, oui, oui. Bah, j'étais content d'avoir cette opportunité, voilà, que m'a donné Dargo et Combo, et surtout de pouvoir m'allier entre guillemets avec Moteux, donc qui dessine la BD, quoi, pour qu'on puisse ensemble, voilà, se lancer dans le grand bain de la bande dessinée et voilà, et réaliser ses rêves de gosse, quoi.
Alors, pour donner envie aux auditeurs de Grand Sud FM de venir sur le stand 13 vous rencontrer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette bande de dessinée Anna et Tarou?
Tout à fait. Du coup, c'est simple, c'est Tarou est bien embêtée, donc l'une des deux héroïnes de la bande dessinée, parce que son village de chasseurs a un énorme problème, des monstres gigantesques saccagent la forêt et voilà, empêchent voilà, toute chasse et toute vie en fait là-bas. Mais Tarou, en fait, elle a des idées un peu différentes des autres chasseurs. C'est que pour elle, il faut comprendre pourquoi ces monstres sont pas contents et saccagent tout. Alors que évidemment, la réponse, et on peut les comprendre des autres chasseurs, c'est de vouloir exterminer tous les monstres pour qu'ils ne les embêtent plus. Et en fait, Tarou va avoir une pichenette du destin quelque part parce qu'elle va rencontrer une jeune humaine, Anna, qui va être d'accord avec elle et toutes les deux elles vont essayer de mettre en place leurs idées, c'est-à-dire ouvrir un carnet, observer les animaux, et ces monstres comme les appellent les autres, et voir, essayer d'enquêter finalement, de voir quel est le problème, quoi. Et c'est comme ça que leur aventure va commencer.
Alors Léo, d'où vient votre inspiration, notamment peut-être par rapport à cette bande dessinée que vous avez créée?
Alors on a des inspirations diverses et variées avec Moteux, mais notamment ce qui nous a, alors ça se voit pas tout de suite dans la bande dessinée, mais ce qui nous a mis ensemble, quoi, le point commun qu'on a eu, c'était notamment un jeu vidéo, donc Legend of Zelda Breath of the Wild, qui était voilà, qui avait un peu ce souffle de l'aventure, de la découverte, mais aussi il y avait un côté promenade, je dirais, où voilà, on a envie de savoir, de comprendre, d'explorer, et pas forcément d'aller battre tout de suite le méchant, mais de comprendre voilà comment les décors sont là. Et avec ça, entre autres, et d'autres références communes, comme par exemple les mangas, voilà, les séries, des musiques aussi, d'ailleurs, on se lançait pour dire « ça va, ça marche ou pas ?» et l'autre disait « oui, ça va bien ou non, ça va pas ». En fait, on a pu trouver un terrain commun, et c'est de ce terrain commun qu'a émergé l'idée d'Anna et Taru, quoi, tout simplement.
Est-ce que vous avez peut-être comme objectif, Léo, de réaliser le scénario ? Ainsi que les dessins dans une nouvelle bande dessinée, parce que là, du coup, vous êtes derrière le scénario, mais vous êtes aussi dessinateur.
Alors, tout à fait. Moi, je suis un peu, pour le dire péjorativement, un peu opportuniste dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, s'il y a quelqu'un qui dessine et qui a envie d'un scénario, ça m'intéresse. S'il y a quelqu'un qui a un scénario qui a envie que je dessine, ça m'intéresse. Mais je suis pas contre non plus continuer à faire dessins et scénarios. Enfin, pour moi, c'est que des facettes différentes, mais tout aussi intéressantes de la bande dessinée, finalement, quoi.
Et est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite?
Alors, tout à fait, parce que bon, dans ces métiers créatifs, les idées fusent, mais le problème, c'est pas qu'il n'y a pas trop d'idées, c'est plutôt que ces idées brutes, on arrive à les raffiner, entre guillemets, pour que les éditeurs voient l'intérêt du projet. Donc, là, en ce moment, voilà, j'ai une idée sur laquelle j'aimerais partir. Alors, ça parlerait d'une société d'oiseaux qui s'est mise en place, on ne sait pas trop comment, et voilà, comme un peu une étude sur cette société, voir comment elle fonctionne ou ne fonctionne pas, en fait, tout simplement, et voilà.
Donc c'est une première pour vous sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Léo, comment ça se passe depuis ce matin?
Ça se passe très bien. Je suis agréablement surpris de découvrir le salon du Grand Narbonne, qui, à ma grande honte, je suis pas allé avant en tant que spectateur. Mais c'est un véritable plaisir. Je trouve que le temps est au rendez-vous. Bon, même si ça se couvre un peu en ce moment, mais ça devrait aller. Non, le temps est au rendez-vous. Les gens sont très agréables. Les libraires sont incroyables d'accueil. Et surtout, c'est très drôle d'être avec les autres collègues, de dédicacer et de voir que voilà, finalement, tout se passe bien. Donc, franchement, c'est heure égale, quoi.
Et on espère que la suite continue pour vous, que ça continue bien se passer. Léo Schilling, donc, à retrouver sur le stand 13, le stand de BD à compagnie, pour eh bien, notamment dédicacer cette bande dessinée Anna et Taru, le premier album du jeune Narbonnais. Merci beaucoup, Léo.
Merci et bon week-end.
Jean-Michel, nous on va continuer sur Grand Sud FM, vous dévoiler d'autres auteurs. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook Radio Grand Sud FM pour découvrir les différentes photos. Nous sommes en direct jusqu'à 17h et on rappelle que l'entrée de ce salon du livre du Grand Narbonne est gratuite, donc venez nombreux.
Merci Benjamin, on se retrouve dans les prochaines minutes. Un peu de douceur côté musique avec Laurent Voulzy, le cœur grenadine. Le cœur grenadine, c'était Laurent Voulzy sur Grand Sud FM, il est 16h31 et nous repartons sur le cours Mirabeau de Narbonne pour le salon du livre du Grand Narbonne avec Marilyn et une nouvelle invitée.
Et oui, je suis avec une autrice, Cynthia Kafka, qui est sur le stand numéro 17. Bonjour.
Bonjour.
Alors Cynthia, si je me trompe pas, vous êtes ancienne professeure des écoles, vous êtes blogueuse, rédactrice puis autrice. Vous avez d'abord diffusé vos premiers romans en auto-édition, puis finalement vous avez été repérée par les éditions de l'Archipel. Et nous, on va parler d'un autre roman, Pour qu'elle revienne, qui est sorti le 3 avril aux éditions Charleston. C'est bien ça?
Vous avez absolument tout bon.
Alors Cynthia, c'est un roman qui nous parle de la famille, ou plutôt des liens familiaux. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, alors c'est l'histoire de Margot qui, la veille de ses 15 ans, alors qu'elle pense qu'elle va avoir une fête d'anniversaire surprise, découvre qu'en fait sa mère a disparu de sa vie. Une disparition volontaire. Et les 15 années qui suivent, aucune nouvelle de la maman jusqu'à ce que un dimanche, devant la télévision, elle voit le visage de sa mère sur un portrait en Corse. Et donc elle décide de partir avec son meilleur ami en road trip en Corse pour essayer de découvrir un petit peu où est sa mère, soit des réponses aux questions qu'elle s'est toujours posées.
Alors Cynthia Kafka, comment est née en fait l'idée de ce scénario? Pourquoi la Corse?
Alors moi déjà, la disparition volontaire, c'est une sorte de, pas une fascination, mais j'ai toujours une grande curiosité par rapport à ça et j'avais vraiment envie de faire un roman sur la disparition volontaire. Et puis la Corse, je vais en Corse depuis que je suis toute petite et chacun de mes romans représente un lieu où j'ai une affection, pour lequel j'ai une affection particulière. Donc la Corse, c'était vraiment important que ça soit un jour dans un roman.
Et vous aimez écrire donc des romans en lien avec la famille, ça c'est aussi très très important pour vous.
Je pense que, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais effectivement, force est d'admettre que aucun de mes romans ne parle pas de la famille. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment, la famille c'est tellement large et il y a tellement de choses à raconter dessus qu'on pourrait écrire des centaines de romans et qui seraient tous différents en lien avec la famille.
Alors vous, Cynthia Kafka, sur ce livre, j'ai vu un bandeau qui dit « Le roman de votre été ». Vous avez bien entendu, « Le roman de votre été » qui se trouve sur le stand 17 du Salon du Livre du Grand Narbonne. Pourquoi pas ? Expliquez-nous à qui s'adresse ce roman finalement. C'est assez large, non ?
Oui, le roman s'adresse à tous les gens qui aiment les histoires qui parlent un peu de famille, à toutes les gens qui aiment les histoires qui parlent aussi de voyage, puisque la Corse est quasiment un personnage à part entière. Et puis c'est tous les personnages... toutes les histoires de personnages cabossés et de résilience et de pardon.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent, vous, Cynthia Kafka ?
Alors, il y a plein d'auteurs qui m'inspirent, je pourrais même pas en dresser la liste, mais il n'y a pas d'auteur qui m'inspire plus qu'un autre. En fait, je pense que c'est surtout des histoires de vie qui font que j'apprécie des auteurs plus que d'autres. Et puis, sur des salons comme ça, on fait des rencontres et ça, c'est inspirant. Au quotidien.
Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un nouveau roman ?
Absolument, oui.
Qui va parler de la famille ?
Forcément, ça parlera peut-être un peu de la famille, mais ça va parler beaucoup de solitude et de synchronicité dans la vie.
Où est-ce que vous allez chercher, je dirais, vos scénarios, toute cette imagination ? C'est des choses de la vie qui vous touchent ?
Alors c'est souvent des questions que je me suis posées à un moment donné de ma vie ou que je continue à me poser et dont je tire un peu, j'ai la pelote de laine et je tire un petit peu le fil et j'essaye de me faire des essais et de qu'est-ce qui va se passer. Et donc ça crée des débuts d'histoire et puis ensuite on les retravaille et surtout en apprenant à connaître mes personnages, ça évolue aussi.
Pour qu'elles reviennent, est-ce qu'on peut le conseiller à un ado par exemple ?
Alors, je conseillerais plutôt Le Sourire au Livre pour un ado, mais après ça dépendra toujours de l'envie de lecture et de ce qu'on aime lire et de où on est dans sa lecture. Il n'y a pas aucun souci pour qu'un ado le lise.
Est-ce que c'est une première pour vous sur le Salon du Livre du Grand Narbonne ?
Absolument, c'est la première fois, mais je reviendrai.
Ah bah oui, mais j'ai vu qu'il y avait la queue tout à l'heure, Cynthia, et que les gens avaient l'air ravis de partager avec vous. Est-ce que vous êtes tombée sur des lecteurs de vos premiers livres, peut-être ?
Oui, je suis tombée sur des lecteurs des tout premiers livres, ceux que j'auto-éditais au tout début, donc ça, c'est toujours rigolo. Je suis tombée sur des lecteurs de mon blog que j'avais ouvert en 2011, donc ça, c'est encore plus fou. Donc, il y a un peu toute cette communauté qui se retrouve et qui crée des rencontres aussi savoureuses qu'inattendues, donc c'est vraiment super chouette.
C'est ça le côté Salon du Livre en fait, c'est pouvoir échanger finalement avec des gens qui ont l'habitude de vous lire ou de vous écouter et puis des tout nouveaux qui vous découvrent également.
C'est exactement ça, le Salon du Livre, il y a vraiment cette double magie, c'est qu'il y a des gens qui vont nous rencontrer, qui s'excusent presque de nous avoir jamais lus alors que heureusement et il en faut. Et puis ces gens qui nous suivent depuis très longtemps, qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui ont vu ce que je faisais ce matin et voilà, qui regardent un petit peu. Et donc c'est ce mélange. Et puis la rencontre aussi avec les auteurs, avec les organisateurs, avec les libraires qui est toujours un super moment et on a toujours envie de recommencer.
Vous avez bien été accueillie à Narbonne.
Oui, c'était très bien.
Mais écoutez, Cynthia Kafka, merci beaucoup en tout cas. Moi, j'invite les auditeurs de Grand Sud FM à vous rejoindre sur le stand numéro 17 pour le roman Pour qu'elle revienne, sorti le 3 avril. Mais vous en avez deux autres également.
J'en ai trois autres.
Trois autres, dites-nous.
Je suis venue te dire Contre vents et secrets et Le Sourire au Livre.
Donc, n'hésitez pas à venir et puis vous serez là pour guider en fonction des lecteurs plutôt tel ou tel livre peut-être.
Oui, tout à fait. Et pour les guider et puis pour passer un beau moment et discuter, ça c'est toujours bien aussi.
Merci beaucoup Cynthia Kafka et très bon Salon du Livre à Narbonne. À bientôt.
Merci, au revoir.
Voilà pour le stand numéro 17. Hein. Décidément, il y a du monde pardon sous ce stand numéro 17. On avait tout à l'heure Marie Nimier notamment. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et puis, vous voyez, les auteurs sont prêts à vous recevoir et prêts à échanger. Juste une dernière question. Vous êtes encore là demain matin ?
Demain matin jusqu'à 11h30.
Alors, on se dépêche. Hein. C'est aujourd'hui ou demain matin avant 11h30. En tout cas, on va aller du côté de la BD. On va aller rejoindre Benjamin plus tard.
Merci Marilyn, on se retrouve dans les prochaines minutes. Pour l'instant, un petit peu de musique avec Slimane, Mon Amour. Excellent week-end à vous toutes et à vous tous. C'est le Salon du Livre du Grand Narbonne. Nous sommes en direct du Cours Mirabeau. On va retrouver Benjamin avec un nouvel invité.
Oui, Jean-Michel, avec le dernier invité de cet après-midi, c'est Philippe Lechermayeur sur le stand 8, La tête dans les étoiles que nous avons retrouvé. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, vous avez sorti Mal d'Aurore, le tome 1, Les enfants de la légende, donc c'est la première saga pour adolescents. Comment au final sont nées l'idée et l'envie d'écrire cette trilogie ?
Ah ben, je crois qu'il y a, quand j'écris, il y a avant tout l'idée d'écrire les livres que j'aurais voulu lire quand j'étais enfant. Et j'étais très friand de romans d'aventure, Jules Verne, Michel Strogoff, Mark Twain, tous ces auteurs-là qui ont baigné mon enfance. Et donc, voilà, ça c'est le premier point de départ. Ensuite, j'avais envie de raconter une histoire avec où plusieurs enfants se retrouvent ensemble et obligés de lutter contre un ennemi et de trouver des solutions, soit de la solidarité pour les enfants que les cinq enfants de la légende qui sont les personnages de mon livre. Il y a aussi un lien fort avec la musique et cette musique va imprégner le premier tome comme les deux suivants et va même rythmer un petit peu l'écriture parce que la musique c'est un rythme mais l'écriture aussi et ici on a des c'est vraiment on est dans un roman comme un feuilleton un peu à l'Alexandre Dumas. Voilà, les Trois Mousquetaires, les Contes de Monte Cristo, avec des chapitres assez courts, parce que c'est un peu au 19e siècle qu'on avait inventé ce que va devenir Netflix aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des feuilletons avec des pour vendre le journal le lendemain. Il fallait du suspense pour qu'on rachète le journal le lendemain. Ben moi, je fais ça avec mes chapitres, et je sais que la plupart de mes lecteurs, les parents se plaignent un petit peu parce que quand mes lecteurs commencent à lire le texte, ils ont du mal à éteindre. La lumière le soir, ils veulent encore un chapitre. Et je trouve ça sympa, même si on peut avoir de très beaux feuilletons à la télé. C'est bien aussi que ça fonctionne avec la lecture.
C'est plutôt valorisant.
Ah oui, pour moi. Et puis, je pense que pour eux, c'est un univers très riche. Et moi, je trouve ça beau de voir un enfant plongé dans un livre et qui a du mal à le lâcher. Et donc, tout mon travail, c'est ça. C'est de faire en sorte que mon livre soit suffisamment passionnant pour qu'il devienne addictif. Et que, qu'une fois qu'on a lu le premier, on a envie de lire le deuxième et le troisième.
Et oui, parce que les trois tomes sont à retrouver sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne, hein, c'est ça ?
Voilà, exactement. Le premier tome était sorti en 2022, donc avec à la clé la pépite à Montreuil, qui est quand même une belle récompense, notamment que c'est une récompense qui est décernée par un jury de lecteurs. Donc ce sont les lecteurs qui choisissent entre les plus belles productions de l'année. Et donc Mal d'Aurore, le tome 1, a obtenu le prix La Pépite à Montreuil cette année-là. Et le deuxième a suivi, hein. J'ai travaillé dur pour que les enfants n'attendent pas trop longtemps. Quelques mois après, le troisième est sorti cet automne. Et donc la trilogie de Mal d'Aurore arrive à son terme, même si je pense que d'ici quelques années, j'y reviendrai parce que c'est des personnages auxquels je suis très très attaché. Et beaucoup de lecteurs se plaignent déjà que la trilogie s'arrête. Donc peut-être qu'un jour, il y aura un quatrième. Voilà.
Donc vous vous décrivez, Philippe Lechermayeur, comme un écrivain nomade. Du coup, vous écrivez un peu n'importe où, à n'importe quel endroit.
Après, oui, mes livres sont traduits dans le monde entier, j'ai la chance d'être invité un peu partout. Et donc j'ai pris aussi l'habitude d'écrire un peu partout. Et dans mon livre, qui se situe au début du XXe siècle, les trains ont une grande importance. J'aime beaucoup ces trains à vapeur. Ces immenses locomotives, ces trains où on habitait comme dans des maisons, comme dans des palaces qui avançaient. Et donc, même si aujourd'hui, on peut pas dire que quand on monte dans le train, on soit vraiment dans des palaces, mais j'arrive toujours à me dégoter. Si j'arrive à me dégoter une place isolée, ou au pire, je mets un casque avec de la musique, ben je sais que c'est un endroit où j'écris beaucoup. J'aime beaucoup voir défiler le paysage et avancer dans mon écriture.
Donc vous êtes un ancien enseignant de français et d'histoire. Est-ce que vous faites un clin d'œil dans le premier tome justement par rapport à Jules Verne ?
Oui, alors c'est vrai qu'on retrouve dans mes livres, pour ceux qui connaissent, des clins d'œil aux livres qui m'ont marqué. C'est pas tant des œuvres que j'ai fait étudier, même si j'aime bien faire partager mes lectures et même encore maintenant. Mais c'est plus moi qui ai été marqué en tant que jeune lecteur par Michel Strogoff, par Mark Twain, les aventures de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, tous ces personnages. En même temps, quand j'étais enfant, il y avait de la littérature en jeunesse, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est riche, avec Mal d'Aurore, mes textes, mais j'ai plein d'autres auteurs. Hein, et si les gens viennent au salon à Narbonne, ils verront d'autres de mes collègues qui ont écrit des livres. Et il y a vraiment un choix. Je trouve qu'aujourd'hui, pour un jeune lecteur, c'est fabuleux, tellement il y a une production qui est riche, variée et surtout de qualité. Et donc, moi, effectivement, j'aime bien dans mes livres faire des petits clins d'œil à mes lectures. Et des fois, des jeunes lecteurs le voient, soit mes livres, en fait, ils ont cette particularité qu'ils sont écrits pour les enfants, mais que souvent leurs parents les lisent aussi. Là, Maldoror, c'est vraiment un récit d'aventure. Et juste avant, il y a des personnes qui sont venues en famille pour rechercher le tome 3. Et dans la famille, le père, la mère, un des enfants, l'autre qui était petit, on lui lisait. Enfin, tout le monde a partagé cette aventure. Et je pense que c'est aussi ça, hein. Un bon livre, même si nous, on parle de littérature jeunesse, un bon livre, c'est une histoire pour tout le monde. Et donc, voilà. Et donc, des fois, des lecteurs plus grands vont dire, mais j'ai reconnu ce passage de Michel Strogoff, vous avez fait une petite citation. Et voilà. Après, c'est pas nécessaire, hein. C'est pas du tout quelque chose qui ferme la lecture. Mes chapitres sont courts, sont vifs, avec un suspense assez fort. Donc, mon objectif, c'est aussi d'être dans la lecture plaisir et par le plaisir, élargir les horizons et pousser un peu plus loin pour que le lecteur, quand il aura lu mon livre, il aura envie d'aller vers d'autres livres. Et voilà, notre objectif, c'est de donner du plaisir dans la lecture et aussi de former les lecteurs de demain. Hein.
Alors, outre Maldoror, est-ce que vous avez d'autres projets ?
Alors là, effectivement, j'étais orphelin pendant quelques temps parce que quand on arrête une saga comme ça, aussi dense, qui m'a pris plusieurs années, c'est dur parce que les personnages qu'on a inventés, étonnamment, on passe plus de temps avec eux qu'avec nos proches, hein, souvent. Et j'ai quitté mes personnages. Si vous lisez Maldoror, vraiment, vous allez, je pense, la plupart des gens s'attachent vraiment à mes personnages. Et notamment, dans le tome 3, il y a un moment un peu dramatique et on m'a écrit pour se plaindre d'avoir versé des larmes et tout ça. Donc, moi-même, quand j'ai quitté mes personnages, j'étais un peu triste. Mais là, je suis reparti sur un autre projet. Une fois que je suis en écriture, comme on pourrait dire, voilà, les choses sont lancées. Et puis, ça sera sans doute un projet qui sortira l'année prochaine. Et voilà. Mais en fait, des projets, j'en ai énormément. C'est plus quand on est écrivain. Souvent, les gens vous parlent de l'angoisse de la page blanche. C'est quelque chose d'assez faux, hein. C'est assez rare. Moi, c'est plutôt j'ai tellement de projets, c'est de faire le bon choix. Parce que quand vous voyez, Maldoror, j'ai fait ce choix, ça m'a porté pendant 3 ans. Donc voilà, quand vous avez fini un nouveau projet, vous dites, tiens, est-ce que cette histoire que je suis en train d'écrire, là, est-ce que j'ai envie de passer plusieurs années avec ces personnages? Est-ce que c'est un univers dans lequel je vais me sentir qui aura assez de force pour que je le porte aussi longtemps? Et là, je crois avoir trouvé le prochain.
Et vous pensez que ce sera aussi peut-être une trilogie? Vous voyez ça comme Maldoror peut-être pour la suite ou peut-être différemment?
A priori, je pense que ça sera 2 tomes, mais c'est encore un peu tôt pour... C'est-à-dire que quand on avance en écriture, on sent aussi le potentiel de l'histoire. Et des fois, un peu comme une voiture, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a sous le capot. Il faut un petit peu rouler avec cette voiture, faire des kilomètres. Moi, là, je suis en train de découvrir le potentiel de mon histoire. Et au début, je voulais le faire je voulais que ce soit un one-shot. Et je suis en train de dire 2, peut-être ça sera 3, on verra. En même temps, voilà, c'est pas la peine de le fixer. Et ce qui est important, c'est surtout quand on fait une histoire, quand on écrit une histoire, c'est surtout, pour moi, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Voilà, il faut surtout pas. Moi, ce que je n'aime pas, c'est des séries qui, malheureusement, marchent bien. Hein, j'aurais pu continuer, en faire 4, 5. J'en ferai peut-être un 4e, que je disais, mais vraiment, je veux attendre, je veux être sûr qu'il soit nécessaire, parce que je trouverai rien de plus triste qu'un truc qui soit étiré juste pour en vendre un peu plus. Donc, vraiment là. Je crois que dans Maldoror, j'ai vraiment soigné les temps, ils sont forts, il y a un rythme qui fonctionne très bien, il n'y a pas de redites, vraiment, on est dans des choses très originales, on ne s'ennuie pas, et vraiment, on découvre à chaque fois quelque chose de neuf, et j'aimerais vraiment pas que mon lecteur ait le sentiment qu'on l'embarque vainement quelque part. Non, il faut vraiment qu'il se dise que s'il est allé jusque-là, c'est que ça en valait la peine, et je pense, vu les retours des jeunes lecteurs, les courriers qu'on m'envoie, ça a l'air de fonctionner.
Eh bien, merci en tout cas, Philippe Lecharmaier, d'avoir répondu à mes questions sur Grand Sud FM. On peut vous retrouver au stand 8, La Tête dans les Étoiles, sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Merci beaucoup.
Merci à vous, avec grand plaisir. Et on vous attend, hein, on est nombreux à vous attendre pour vous dédicacer nos livres. Hein. Merci à tous, merci à Narbonne.
Voilà, Jean-Michel, donc c'était le moment pour nous de se quitter. On va continuer par vous dévoiler le programme de ce salon du livre du Grand Narbonne. C'est Marline qui va s'y coller.
Et oui, parce que à 17h15 hein, jusqu'à 18h, vous avez les confidences tunisiennes à l'espace rencontre avec Marine Imier. Vous avez eu la chance de retrouver tout à l'heure. Et de 18h à 18h45, le vin, c'est pas sorcier. C'est avec Ophélie Naman du CIVL. Vous allez vous initier à l'art de la dégustation, comprendre les vendanges et la vinification. Donc n'hésitez pas, venez au salon du livre. Hein, on vous attend jusqu'à 19h, il y a une centaine d'auteurs. Et puis nous, Benjamin, on sera à nouveau là demain à 11h. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.
À demain, Jean-Michel. Bonne journée à tous.
À demain, passez une excellente après-midi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain matin. Ce sera dès 8h. Et en attendant 17h et les informations, on écoute les Trax. Passez un excellent week-end.